Bonjour Christine Saloum.
Bonjour, bonjour à nos chers auditeurs. Merci pour votre fidélité et merci pour votre accueil. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Maison de Marie. Alors ce mois-ci, nous partons en Turquie, à Éphèse, à la découverte de la Maison de Marie. La Maison de Marie à Éphèse a fait l'objet et continue de faire l'objet de nombreux débats et paradoxes. En effet, si l'on regarde attentivement le parcours de Marie, il y aurait trois maisons. La première est à Jérusalem, à côté de Gethsémani, et le frère Cyril Jalabert, que nous avons reçu dans les émissions précédentes, en avait parlé. La deuxième serait en Italie, à Lorette, et selon la tradition, elle aurait été transportée par les anges pour la préserver des destructions. Là encore, le frère Cyril Jalabert nous a expliqué dans les précédentes émissions que dans la réalité, cette maison aurait été démontée en partie par les croisés et ramenée en Italie pour la préserver des destructions après le départ des croisés. Et enfin, il existe une dernière maison de Marie à Éphèse où elle aurait vécu après la crucifixion de Jésus. C'est cette maison que nous allons voir aujourd'hui. Alors, selon l'évangile de Saint Jean, au moment de sa passion, Jésus dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il s'adressa à Saint Jean et lui dit « voici ta mère ». L'évangile ajoute qu'à partir de ce moment-là, le disciple prit Marie chez lui. La tradition veut que Marie l'ait suivi pour fuir les persécutions à Jérusalem. Il se serait alors réfugié à Éphèse, où elle aurait fini ses jours. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Éphèse était l'une des plus grandes cités de la Méditerranée. Et s'il semble logique et normal pour les historiens de dire que Jean et Marie aient vécu à Éphèse comme le montrent les Actes des Apôtres, il leur semble difficile de reconnaître que Marie soit morte à Éphèse. En effet, le lieu de l'Assomption ou de la Dormition, que l'on soit catholique ou orthodoxe, divise encore de nos jours les théologiens et les historiens. Dès le 5e siècle, la maison de Marie à Éphèse se retrouve au cœur d'un débat qui ne parvint pas à la reconnaissance de la ville d'Éphèse comme le lieu de l'Assomption. Le Concile d'Éphèse, en 431, évoque pour la première fois le dogme de Marie, et Marie, lors de ce concile, est proclamée comme la mère de Dieu. Le Concile reconnaît le passage de Marie à Éphèse, mais ne reconnaît pas son décès ou son assomption à cet endroit-là. Pourtant, selon la tradition syriaque, Marie aurait fait son assomption, serait morte donc à Éphèse. En revanche, selon la tradition chrétienne, selon la tradition de l'Église et selon le Concile d'Éphèse, celle-ci est morte à Gethsémani, aux portes de Jérusalem, au lieu dit du sépulcre de la Vierge, lieu évoqué par le frère Cyril Jalabert. Par cette décision, le Concile clôt donc le débat, malgré le développement en Asie mineure d'une tradition qui entretiendrait l'idée de la maison d'Éphèse comme le lieu de l'Assomption. Le débat fut relancé une première fois à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, lorsqu'une religieuse voyante, Anne-Catherine Emmerich, a eu des stigmates et a eu des visions de la Sainte Vierge. Et ces témoignages, ces visions ont été donc recensées dans un ouvrage qui s'appelle « La vie de la Sainte Vierge ». Dans cet ouvrage, elle raconte et elle affirme que la Sainte Vierge est morte à Éphèse. Selon Anne-Catherine Emmerich, je la cite, « Marie vécut environ 3 ans à Sion, puis 3 ans à Béthanie et enfin 9 ans à Éphèse. Selon elle, toujours, la Sainte Vierge ne demeurait pas à Éphèse même. Sa maison était située à 3,5 lieues de la ville. Elle était située sur une montagne que l'on voyait à gauche en venant de Jérusalem et qui s'abaissait en pente douce vers la ville. Derrière la maison de Marie, qui était la seule maison en pierre, se trouvait la montagne. Et la montagne n'offrait jusqu'au sommet qu'une masse de rochers, d'où l'on apercevait par-delà les vallées, par-delà des vallées des arbres, la ville d'Éphèse et la mer avec ses nombreuses îles. » Donc là, je cite encore Anne-Catherine Emmerich. Toujours selon la voyante, la maison de Marie se trouvait dans un endroit où beaucoup de saintes femmes et plusieurs familles chrétiennes s'étaient établies avant même que la grande persécution eût éclaté. Ces familles demeuraient sous des tentes ou dans des grottes rendues habitables à l'aide de quelques boiseries. Pour se protéger des persécutions, ces premières familles chrétiennes vivaient donc isolées. Et selon Anne-Catherine Emmerich, la maison de Marie était carrée, la partie supérieure seule était arrondie, les fenêtres se trouvaient en hauteur et le toit était plat. La mise par écrit et la publication des visions de Anne-Catherine Emmerich relança le débat sur le lieu de l'Assomption et sur, bien sûr, la maison de Marie. Mais l'Église trancha à nouveau en faveur de Jérusalem. Le débat fut une troisième fois relancé lorsqu'un prêtre français, l'abbé Gouillet, découvrit en octobre 1881 les ruines de la maison de Marie à l'endroit décrit par Anne-Catherine Emmerich. Il annonça sa découverte, mais personne ne le prit vraiment au sérieux. Le dogme de l'Église étant très clair, étant très strict, donc on ne pouvait pas y croire. Cependant, ce n'est que 10 ans plus tard, lorsque des pères lazaristes, les pères Poulain et le père Jung, appartenant au collège français de Smyrne, reprirent cette démarche, persuadés qu'il s'agissait d'une supercherie de la voyante, qui à l'époque n'était pas crédible ou n'était pas crue, et donc persuadés aussi qu'il s'agissait d'une erreur du père Gouillet, qui aurait été complètement éberlué, influencé par les révélations de Anne-Catherine Emmerich. Donc ils y sont allés pour vérifier, pour démontrer que la voyante avait tort. Le problème est que, le 23 juillet 1891, les deux pères lazaristes mettent à jour une chapelle en ruine sur le site appelé par les habitants la porte de la Toute-Sainte, sous-entendu la porte de la maison de la Sainte Vierge. Intrigués, les pères lazaristes multiplièrent les fouilles et les recherches, attirant ainsi l'attention, bien sûr, des fidèles chrétiens de la région, mais surtout des autorités ottomanes, soupçonnant donc les Français de manipuler les populations locales contre eux et de préparer une révolte. En 1892, les religieux lazaristes achetèrent le terrain de 139 hectares grâce à la supérieure de l'hôpital français de Smyrne, qui en devint la propriétaire au grand malheur des Ottomans qui firent tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher cet achat, car pour eux, il s'agissait de quelque chose d'étonnant et de surprenant. Malgré toutes ces oppositions, malgré les tentatives d'annulation des actes, la maison de Marie fut acquise par les Français et restera propriété donc des religieux jusqu'en 1932. De 1892 à 1914, la maison de Marie fut mise à jour, reconstruite et réorganisée de manière à devenir un véritable lieu de pèlerinage pour les chrétiens. Le premier pèlerinage eut lieu en 1894. Il comprenait majoritairement des Grecs, des Arméniens et des chrétiens de la région. En 1914, le pèlerinage regroupait plus de 14 000 fidèles, c'est-à-dire l'importance de ce lieu et l'importance de la maison de Marie. La Première Guerre mondiale, le démantèlement de l'Empire ottoman et la naissance de la Turquie perturbèrent le pèlerinage et finalement la Seconde Guerre mondiale signa son arrêt de mort. En 1932, la propriété avait été acquise par l'État et après 1945, l'État avait achevé de mettre en arrêt le pèlerinage et de mettre la main sur toute cette propriété. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, l'avenir de la Maison de Marie apparaissait clairement comme remis en question à la fois par les Turcs, mais aussi par l'Église qui refusait toujours de reconnaître l'édifice comme le lieu de l'Assomption. Si en 1896, le pape Léon XIII reconnaissait cette maison comme celle de Marie, il refusa de la reconnaître comme le lieu de son Assomption. Par la suite, les papes Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI visitèrent la maison de Marie, mais ne changèrent pas leur position quant à la reconnaissance de la maison d'Éphèse comme lieu de l'Assomption. Paradoxalement, le renouveau du pèlerinage et des fouilles de la maison de Marie fut lié à l'action de l'État turc qui, dans les années 50, essaya de récupérer les fouilles et la maison de Marie dans un but touristique et politique. La renaissance de la maison de Marie fut aussi liée à l'action du célèbre historien, archéologue et islamologue Louis Massignon. Dans les années 50, à la même période, Monseigneur Joseph d'Escuffy, archevêque d'Izmir ou de Smyrne, ça dépend la position que l'on prend, Izmir ou Smyrne, et Louis Massignon relancèrent ce que l'on appelle la théorie éphésienne. Par ses conférences, par ses publications, Louis Massignon relança le pèlerinage de la maison de Marie à Eiffel. Il constitua aussi une association et une revue appelée Notre-Dame d'Éphèse pour financer les travaux de restauration et de reconstruction de la maison de Marie. Les objectifs de Louis Massignon étaient clairs. Il s'agissait pour lui, et je le cite, premièrement, d'orienter notre pensée et nos pèlerinages vers les lieux saints d'Éphèse. Deuxièmement, je le cite toujours, soutenir et développer les recherches scientifiques sur Éphèse pour prouver que Marie non seulement était bien là, mais que son Assomption avait eu lieu là. Et ensuite, bien sûr, méditer le mystère marial. Et enfin, aider au procès de canonisation de la célèbre voyante qui avait permis de redécouvrir la maison de Marie, à savoir Anne-Catherine Emmerich. Grâce au travail de l'évêque de Smyrne, ou d'Ismyre, comme vous voulez, et de Louis Massignon, la maison de Marie retrouva son apparence d'origine et devint l'un des principaux lieux de pèlerinage en dehors de la Terre Sainte. La particularité de la maison de Marie à Éphèse ne résidait pas seulement dans le débat sur le lieu de l'Assomption ou sa récupération politique et religieuse par l'État turc, mais aussi cette particularité résidait dans la mixité religieuse avec les musulmans et les chrétiens. En effet, depuis donc les années 50, les musulmans et les chrétiens venaient dans ce lieu de pèlerinage et cette mixité expliquait en quelque sorte l'engouement de l'État turc pour ce lieu. Dès 1953, Louis Massignon constata que la maison de Marie devint très rapidement un lieu de pèlerinage pour les chrétiens et les musulmans. Et il décrit qu'aux pèlerins chrétiens donc, succèdent les pèlerins musulmans de manière alternée, au chapelet succèdent les chants musulmans. Le sanctuaire de la maison de Marie devint très rapidement un lieu de dialogue, de rencontres interreligieuses, ce qui, dans le contexte de Vatican II, ne dérangea absolument pas Rome. À ce titre, Louis Massignon écrit « À la grande inquiétude des sacristains d'Éphèse, ces musulmans faisaient des sacrifices en égorgeant le mouton sur le seuil de la porte de l'église mariale. Mais comme le pape, par une lettre spéciale à l'archevêque de Smyrne, lui prescrit d'ouvrir l'église à toute personne, même non chrétienne, ayant une dévotion à la Sainte Vierge, on les laissa faire. » Il est intéressant de noter que ce phénomène perdure et justifie d'une certaine manière, il est toujours visible encore de nos jours, et justifie l'appropriation de ce lieu par l'État turc. Les personnes curieuses de voir comment se croisent les pèlerins chrétiens et musulmans dans la maison de Marie à Éphèse peuvent retrouver ou peuvent regarder sur YouTube une vidéo réalisée par Manuel Pénicaud, professeur et chercheur français à l'université d'Aix-en-Provence, dans laquelle il évoque ce phénomène et il montre bien l'alternance des pèlerins dans ce lieu de prière. Alors, les fouilles attestent qu'une première partie de la maison de Marie fut construite au 1er siècle après Jésus-Christ. Et pour marquer le passage de la Vierge, les Byzantins auraient construit au 6e siècle une petite chapelle encore visible de nos jours et dans laquelle prient les pèlerins. Une dernière partie aurait été rajoutée au 13e siècle et la maison de Marie aurait été transformée en chapelle byzantine. Par la suite, donc, avec les différentes conquêtes, les bâtiments auraient été abandonnés et laissés en ruine jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés d'abord par l'abbé Gouillet, puis par les pères lazaristes, les pères Poulain et Jung. La restauration et la reconstruction de la maison de Marie connurent deux étapes, deux phases. D'une part, la période allant des années 1890 à la Première Guerre mondiale. C'est la période de la redécouverte, de la reconstitution de la maison de Marie. Et d'autre part, la seconde moitié du XXe siècle, où le site fut plutôt aménagé par les autorités locales comme un lieu de pèlerinage pour lequel on a construit des bâtiments, des routes et des hôtels. Concrètement, archéologiquement, la maison de Marie est de taille modeste. Elle se situe sous un platane. Sa petite taille pose des problèmes au niveau de l'accueil des pèlerins. Les frères capucins responsables des lieux sont obligés de constituer des groupes limités en nombre de personnes. Ils sont obligés de faire entrer un groupe pendant que l'autre est en train de sortir par une autre porte latérale. La maison comprend d'abord un vestibule décoré avec les photos des prêtres qui ont découvert les lieux et bien sûr la photo de la voyante Anne-Catherine Emmerich. Ensuite, au bout du vestibule, on aboutit à la pièce principale, à savoir une petite chapelle recouverte de tapis et où se trouve la statue de Notre-Dame d'Éphèse, qui est en réalité une statue de Notre-Dame de Lourdes que l'on a retrouvée dans un ravin pendant la Première Guerre mondiale. Et à côté donc de cette pièce principale se trouve une autre pièce, une pièce plus étroite, qui est la chambre de Marie. Cette petite pièce contient donc un tableau de la Dormition, un chapelet offert par le pape Benoît XVI lors de sa visite et de nombreuses ex-voto en guise de remerciement. Une autre porte latérale conduit les pèlerins dans une cour où ils peuvent déposer des bougies, faire des offrandes à la Sainte Vierge. Dans un bâtiment un peu plus éloigné et beaucoup plus récent se trouve la maison des Capucins, qui sont responsables de ce lieu de pèlerinage et qui sont les gardiens de la maison de Marie. Et un peu plus loin encore se trouve la source de Marie, à savoir le puits où Marie allait puiser son eau. Encore un peu plus loin se trouve un mur à l'apparence très étrange, un peu bizarre, car il est recouvert de papier et de rubans sur lesquels les pèlerins ont écrit leurs demandes et ou leurs remerciements à la Sainte Vierge pour son aide et pour ses grâces. L'essor de la maison de Marie en tant que pèlerinage n'est pas seulement lié à sa portée historique, archéologique ou touristique, mais aussi et surtout à ses miracles. Dès 1892, dès le premier pèlerinage, de nombreuses guérisons ont témoigné de la présence et de la grâce de la Vierge Marie. Ainsi, il est possible de dire que la maison de Marie est mystérieuse par son histoire, par son aspect interculturel et par le débat qu'elle suscite, notamment au niveau de l'Assomption. Et si depuis le 1er siècle, elle n'a pas cessé d'attirer l'attention et les débats, il est intéressant de noter que, comme en Égypte, comme nous l'avons vu le mois dernier, l'État turc, bien que musulman, essaie de récupérer l'image et la présence de la Sainte Vierge dans un but politique. Pour cela, je vous retrouve avec plaisir le mois prochain avec le professeur Manuel Pénicaud, spécialiste de la Maison de Marie, pour évoquer à la fois le rôle de la Maison de Marie dans la mémoire turque, mais aussi pour évoquer cet aspect interreligieux et comment la Maison de Marie est devenue un lieu de pèlerinage à la fois musulman et chrétien. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous retrouve avec plaisir le mois prochain pour de nouvelles découvertes.
Merci beaucoup Christine Saloum, il me tarde de vous retrouver le mois prochain pour avoir la suite.
Merci à vous, à bientôt.
À très bientôt. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était notre émission « Sur les traces de Marie en Orient » avec Christine Saloum. Le thème aujourd'hui était le mystère de la maison de Marie. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.radiomaria.fr ou sur notre application Radio Maria Play.